Alors, le titre, vous retrouvez ici, c'est la Commedia. Hein, je le dis évidemment comme on le disait alors, hein, la Commedia di Dante Alighieri, con la nuova esposizione di Alessandro Velutello. Tel est le titre de ce grand commentaire, publié en 1544, en juin 1544, chez Francesco Marcolini. C'est la seule édition autonome, je vais expliquer ce que j'entends par là, du texte avant 2006. C'est un objet un petit peu étrange, déjà ce titre. Pas eu de réédition. Les seules reprises, si vous voulez, de réédition autonome. Les seules reprises dont il est fait l'objet sont trois éditions vénitiennes de la deuxième moitié du siècle où Velutello, le texte de Dante, sur la base de l'Aldina du Abembo de 1502, est réédité avec les deux commentaires de l'Aldino et de Velutello. Je vous rappelle, le point capital, c'est que le commentaire de Velutello trouve ses marques, en quelque sorte, ou circonscrit son territoire, précisément en opposition avec... Alors ça, c'est des choses, notamment dans l'étude de Procaccioli, qui émerge avec une très grande netteté, qui sont celles à laquelle je faisais allusion, et je vous y renvoie, si vous souhaitez approfondir la question. Il s'agit d'un in quarto de 225 mm à peu près, par 143, constitué de 54 cahiers plus un quinterno. Ça vous donne, si j'ai bien compté, 884 pages au total dans ce format. Le texte de Dante à gauche dans une élégante italique, c'est très beau sur le plan choix des caractères et de la mise en page. Le commentaire à droite dans un corps plus petit du même caractère. Puis, pour ce qui est du commentaire, pleine page, quand le commentaire déborde le texte au point d'occuper une page entière. Et peut-être surtout, 87 xylographies. Trois pleines pages au début de chaque cantica et une répartition des 84 restantes entre 38 pour l'enfer, avec une particularité que je signalerai rapidement, 20 pour le purgatoire, et 26 pour le paradis. Ces gravures occupent entre les deux tiers et les trois quarts environ de la page, dans un format rectangulaire qui se rapproche quand même du carré, puisqu'on a entre 125 et 130 mm pour le grand côté et 105-110 pour la hauteur. Je signale aussi rapidement que les bois en question seront assez abondamment réutilisés de façon indépendante du commentaire de Velutello. Dans les trois éditions, les trois éditions vénitiennes de la deuxième moitié du siècle, où l'Aldina est réimprimée avec la reprise des deux commentaires de l'Aldino et de Velutello. Doni, avec qui Velutello a été en contact à Venise, Doni a réutilisé 21 de ses bois pour l'édition de 53 des Inferni. Il y a quatre éditions lyonnaises de Guillaume Rouillet, la première étant de 51, qu'on peut trouver d'ailleurs sur internet, sur le site de la bibliothèque de Lyon, qui reprend, alors, pas eu le temps de regarder exactement quantitativement ce que ça représente, mais qui dit reprendre le commentaire de Velutello, en fait, il ne reprend pas la totalité. Il faudrait voir comment ça coupe, comment ça les sélectionne. Il reste un certain nombre de choses à voir, et qui reprend quelques bois, alors, trois, je crois, simplement, quelques bois de l'édition Marcolini de 44. Voilà un premier état des lieux rapidement brossé. Pour ce qui est du commentaire, alors c'est une opération éditoriale qui se caractérise d'abord par l'établissement du texte de Dante sur de nouvelles bases par rapport à l'Aldina de 1502 et par une violente polémique dans l'adresse au lecteur initial. Il y a un péritexte qui est très très important dans l'adresse au lecteur initial contre Bembo qu'il ne nomme pas Un'altra ragione mi ha mosso ancora questo, la qual è, per aver trovato gli antichi testi scritti a penna.
La qual è dunque?
Per aver trovato gli antichi testi scritti a penna, ma più i moderni impressi a stampa incorrettissimi. Or, la seule impression récente, c'était encore l'Aldina, e soprattutto quello impresso e stampato da Aldo Manucci, sul titolo, come vous le savez, des Terze Rime di Dante, che presso di tutti è stato in tanta estimazione, eccetera, eccetera. E il nous précise après comment. Bon, il a pu procéder, mais je ne vais pas insister sur cette question-là. Il ajoute aussi, ça c'est une remarque évidemment intéressante hein, pour les historiens, les historiens du livre et les personnes qui s'intéressent de plus près à la question du commentaire, il ajoute aussi que les opérations éditoriales récentes, consistant à reprendre celles entre 1502 et 1544, au moment où il publie lui son texte, qui consiste à reprendre le texte de l'Aldina, en l'assortissant du commentaire landinien, fondé sur d'autres leçons, aboutit dans de nombreux cas à des incohérences entre les leçons retenues par Bembo et l'exégèse. Succès mitigé, très certainement, de cette édition, car on compte beaucoup d'invendus 20 ans après le tirage initial. Et il y a même un habillage, une reprise sous forme d'habillage de cette même édition qui permet de relancer commercialement la chose. Bon. Alors, sans doute, faut-il y voir la vengeance de Bembo quelque part, ou la main occulte de Bembo derrière tout cela, et des milieux lettrés, alors ceux, évidemment, que Bembo... sur lesquels Bembo a une influence certaine, mais aussi des milieux florentins, parce que c'est un, je vais en dire un mot de Velutello, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est un Lucquois, Lucca de Luc, et de temps en temps, son commentaire tente à valoriser le Lucquois et le Pisan, au détriment du Florentin, et puis surtout c'est un commentaire anti-landinien. Et paradoxalement, même si les conditions... évidemment sociopolitiques et idéologiques ont changé considérablement entre 1481, l'Andine remet à la seigneurie son ouvrage, et 1544, tout a changé, ou à peu près, à Florence. Malgré tout, il y a une espèce de permanence, comment dire, de l'attachement, en quelque sorte, à ce commentaire, qui fait qu'il y a une sorte d'identification, en quelque sorte, c'est le commentaire florentin, et puis et quiconque ose y toucher, évidemment, s'expose à cela. Je vais citer Dionisotti, mais il nous dit ceci, et ça, bon, avec la coume, je le cite, « Per quanto era della dottrina teologica, filosofica e scientifica di Dante, il Velutello, applicando la sua regola di un'assoluta subordinazione, c'est ça le point important, et ce que je vais essayer d'illustrer dans un premier temps, del commento al testo, subordinazione del commento al testo, riuscì a liberare questo dall'ingombro delle stravaganti questioni e digressioni predilette dal Landino. Enciclopedia dantesca. Alors, on sait peu de choses de Velutello encore. Alors, au titre des acquisitions récentes, on est certain maintenant de sa date de naissance, 1473, Lucca. La date de sa mort reste inconnue. Et on ne sait rien de sa formation, sinon, si l'on en juge par les effets, qu'elle fut plutôt solide. Mais sur ce dernier point, Pirovano, qui est le curatore de l'édition Salerno du Commento, nous livre une hypothèse très séduisante en nous ramenant à la situation des écoles lucquoises au Quattrocento, tel qu'un échange épistolaire de 1465 entre les deux principaux maîtres d'école en dessine les contours. Vous avez d'un côté un Florentin, Lorenzo Guidetti, disciple de Landino. De l'autre, un certain Buonaccorso Massari, promoteur d'une attention à la lettre du texte dans sa singularité propre, quelque chose qui préfigure en quelque sorte, je reprends le mot de Pirovano, une philologie plus scientifique. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce commentaire, ou plus exactement, de la Nova Esposizione? Il y a là quelque chose qui intrigue, qui intrigue tous ceux qui se penchent, je crois, sur ce commentaire. Je vous ai dit l'insuccès éditorial, et ça on peut comprendre, que des gens... Et pour qu'il soit relu, je crois qu'il faut attendre, ce sera j'anticipe un peu la conclusion, mais attendre évidemment une époque beaucoup plus proche de nous, où réellement le commentaire, dans un esprit d'absolue subordination au texte, qui n'est pas évidemment le type de subordination qui est celle que précise Dante dans le premier livre du Convivio, on va reparler du Convivio, un type de subordination au texte qui est étonnamment, je n'aime pas beaucoup raisonner comme cela, mais qui est étonnamment moderne. Et, petit détail aussi, vous savez sans doute, un certain nombre d'entre vous quand, sont intéressés à la question, qu'il y a, alors pour les commentaires alors, de Pétrarque et de Dante, il y a dans le Dizionario Critico della Letteratura Italiana della UTET, qui a été dirigé par Branca il y a une vingtaine d'années, des articles qui sont tout à fait utiles, un premier guide, une première approche à cette question-là. Très curieusement, c'est Paola Rigo qui avait fait cet article sur les commenti danteschi, fait une allusion indirecte à Vellutello à propos de Landino, et c'est tout. Et c'est, je crois, parce qu'on n'arrive pas à le situer précisément dans une lignée, dans une généalogie, dans un sillage. Alors, il fait le choix d'appeler ça « esposizione » et non pas « commento ». Ceux qui ont réfléchi sur la question et la grande logique du commentaire, et notamment au XVIe siècle, l'expliquent par l'affaiblissement du poids des institutions, des universités, où l'on pratique évidemment abondamment le commentaire, au profit d'un exercice qui n'est directement pour la publication et un lectorat nouveau, et ça vous l'aviez très très bien vu, très très bien expliqué, qui n'est plus le prolongement, la transcription d'un enseignement oral, qui a son histoire propre à l'intérieur de l'institution universitaire. Alors il y aurait là l'indice dans ce choix, entre autres choses, mais sans doute la chose la plus importante, la première, l'indice, le signe de la différence entre le commentaire qui, sous prétexte de lever le voile allégorique, dit plus que ce que ne dit le texte, et le recouvre d'un autre texte dû à un commentateur, comme dit Gisèle Mathieu Castellani, je trouve que le mot valise dit bien ce qu'il veut dire, un commentateur, le cas de Landino, qui nous, évidemment, fourgue son néoplatonisme ficinien à satiété, et fait disparaître le texte de Dante, dans beaucoup de cas, sous le poids énorme, cette chape, d'un commentaire proliférant. Et l'explication, ou ici l'exposition, qui se soumet au texte, permet d'en saisir la lettre et n'en dévoile l'implicite que par rapport au monde du texte en lui-même et pour lui-même. Il sort très peu, Vellutello, du monde du texte. J'ai dit explication pour traduire exposition, c'est parce que je suis de formation française et tous ceux qui ont pratiqué dans le système français l'explication de texte se font une idée, en tout cas, une représentation, même si elle est... pour rester un peu approximative, de ce que j'entends dire, l'opposition qu'il peut y avoir entre commentaire et explication. Explication de texte, une espèce de posture tout à fait humble vis-à-vis d'un texte dont on essaye de rendre compte en éclaircissant d'abord et avant tout la lettre, les conditions d'intelligibilité de la lettre, la compréhension. Il s'agit, et ça je vais citer Landino, il s'agit pour notre interprète, alors le terme abonde, interprète, interprétare et toute la famille lexicale, d'expliquer le plus possible Dante par Dante, di provar per lui, ciò che diceva. Il y a la trace chez Vellutello, évidemment, de très nombreuses dettes à l'égard de la tradition, Landino compris. D'ailleurs. Il y a notamment dans l'introduction de Pirovano toute une série d'observations. Tout à fait importante à cet égard. Et puis, il y a, dans son apparat critique, le parti est un peu différent de celui de Procaccioli pour Landino, il y a puntualmente tous les renvois à ses prédécesseurs dont il est redevable et qui permettent de très vite mettre en regard et se faire une idée, en tout cas, terrain préparatoire pour une enquête encore plus systématique que celle à laquelle procède Pirovano dans l'introduction. La source la plus importante pour Velutello, ce ne sont pas tant les commentateurs qui l'ont précédé que Giovanni Villani. Ce qui l'intéresse, ce sont les, comment dire, c'est l'environnement socio-historique, si vous voulez, et politique du surgissement de ce texte de Dante, des scènes qu'il représente, des personnages qu'il rencontre, etc., etc. Un autre indice de cette pente, je vais y revenir dans un instant, mais bon, une petite conclusion provisoire. On a affaire, trois volumes abondants, bon, quand même, mais un commentaire dégraissé qui tente à appliquer ce qu'on pourrait appeler, j'adapte la pragmatique textuelle, si vous voulez, lectures anciennes de théorie de la conversation, en quelque sorte, les maximes de la quantité et de la qualité. Qu'est-ce à dire ? Tout en maintenant une exigence d'exhaustivité, à chaque fois réaffirmée, Velutello entend nous livrer exactement la dose d'information suffisante pour comprendre le texte. Rien de moins, mais rien de plus non plus, ou si possible rien de plus, et seulement ce qui est pertinent. C'est-à-dire, à travers un ou deux exemples, mais faciles à trouver chez Alan Dino, par exemple, bon, ça peut être très intéressant en soi, les grandes digressions d'Alan Dino, quand elles sont philosophiques, elles peuvent être très intéressantes aussi quand elles sont simplement encyclopédiques, mais elles peuvent être très intéressantes, mais aidantes dans tout ça. Bon, oublier, on a l'impression, on tourne les pages, oublier depuis longtemps, c'est du Landino qui... rien de tel chez Velutello. Le péritexte. Alors, on a une dédicace, je n'en dis rien parce que pas le temps, à Paul III, qui lui permet de contourner quand même, si vous voulez, l'ostracisme dont il est sans doute victime dans le milieu vénitien. Et il est l'auteur, en 25, de cette édition du commentaire de Pétrarque, qui lui a été beaucoup réédité, qui lui a valu une certaine notoriété. Alors, j'aurais été très intéressé de savoir, parce que ce n'est pas l'édition de 25 que vous avez ici, c'est l'édition de 47, je crois, une réédition. Et alors, j'ai constaté... c'est le goût de l'anecdote, mais j'ai constaté, on a l'impression que le fameux frontispice avec la carte de, il a fait le voyage, c'est le premier, bon, je le dis quand même parce que ça a quelque chose à voir avec ce dont on parle ici, il a fait le voyage un peu sur les traces de Maurice Sève d'ailleurs, qui comme vous savez avait découvert le tombeau de l'or, avait découvert un sonnet dans le tombeau de l'or, etc. Il a fait le voyage d'Avignon et il nous propose une carte très belle, etc. Il y a de toutes petites variations entre le bois de cette illustration d'ouverture de l'édition de 25 et celle que vous avez, vous. À peine visible, du style, vous savez, les jeux pour les enfants, trouver la différence. Des petites choses minimes. Et en particulier, il y a beaucoup moins de petits bonshommes qui sont à peine dessinés par un jeu de petits traits un peu plus épais dans ce paysage d'Avignon et des environs, il y a un lévrier qui court derrière un lapin qui disparaît, enfin, il y a des choses comme ça, et j'aurais bien aimé savoir si... bon, tout cela pour vous dire que, bon, malgré le succès de ce comédien, il s'était retrouvé un petit peu, et il y a cette dédicace à Paul III, qui lui permet peut-être de contourner, enfin, de croire qu'il va contourner la difficulté. Et puis, contrairement au schéma landinien, il y a une vita et costumi del poeta qui précède directement le commentaire. Derrière la vita et costumi del poeta chez Landino, vous avez, ceux qui se sont intéressés à cette question, qu'il y a che cosa sia poesia e poeta e della sua origine divina e antichissima, il y a del furore divino qui constitue une section distincte, che l'origine dei poeti sia antica, etc. etc. Et Marsili Ficini Fiorentini, qui a droit à tout un chapitre. Bon. Et puis le fameux Cito forma e misura, qui va donner lieu à des débats qui vont se prolonger jusqu'au tout début du XVIIe siècle avec Galilée, Manetti, Landino, Benivieni, Landino, les reprises à l'Académie florentine, et jusqu'à Galilée qui se prononce pour, etc., contre Velutello d'ailleurs. Cette vita de Dante, qui précède immédiatement le commentaire, est une reprise de la vita di Dante di Bruni, dont il élimine très précisément la fameuse digression de Bruni sur Che cosa sia poesia, d'où vient le nom, hein, qui remonte à l'étymologie grecque, qui nous donne les deux grandes façons d'être poète et de faire de la poésie entre le scientifico et le furore, hein, Saint François étant le capostipite pour le furore, et puis Dante pour la poésie a scientifica. Hein, il élimine tout ça pour ne garder que ce que l'historien, entre guillemets, Bruni, avait établi, évidemment, sans toutes les digressions, les fantaisies bocassiennes sur il était brun avec les cheveux noirs, brun noir, corbe, avec les cheveux bouclés, parce qu'il sortait de l'enfer. La première partie est un peu polémique, alors contre Boccace, contre Philelphe, etc., ou contre tous ceux qui nient l'existence ou de l'or ou de Béatrice, hein, puisque c'est des Boccaces, hein, en tout cas pour l'or, un grand débat. Et Philelphe, comme vous savez, dans son nie l'existence de Béatrice. Bon, alors, plus stimulante encore, ça c'est, à mon avis, un texte à anthologiser, éventuellement, c'est l'adresse au lecteur. Alessandro Velutello a dit lettori. Et c'est là qu'il examine la tâche de l'interprète, ce que doit faire le bon interprète. Et c'est là qu'il prend évidemment ses distances avec ses prédécesseurs. Et je voudrais, ce sera d'ailleurs mon titre définitif peut-être, s'il n'est pas trop long, mais je voudrais intituler la chose, de façon à stimuler un peu la curiosité, pour une exégèse des sentiments. Parce que, il y a matière à discussion, hein, y compris ce que rapidement vous aviez écrit sur cette question. Procaccioli y revient, alors de façon à mon avis plus juste, mais très rapidement. Il y a le retour constant de ce mot sentimenti. Ora, lettori studiosissimi, io confesso la mia ignoranza essere forse maggiore di quello che ve la siete immaginata, e non nego che tutti quelli che hanno scritto sopra di tal commedia non abbin detto molte cose degne del dottrine loro. Dalle quali si possa cavare utilissimo frutto, ma se consideriamo che la investigazione dei sentimenti è la cosa alla quale il buono interprete di qualsivoglia autore debbe sempre, innanzi a tutte le altre, con sommo studio e vigilanza, intendere, perché questi sono il fondamento di ogni assunta interpretazione, ed essi sentimenti essere molte volte agli ingegni quasi come i sapori ai gusti, perché siccome questi da diversi diversamente s'appetiscano, così quelli da diversi diversamente si sentono, onde veggiamo che di qua nascono i vari contrari argomenti nelle dispute, però, eccetera, eccetera. Je crois que chacun comprendra aisément que éclairer ce que veut dire sentiment en allant au-delà de la vague analogie avec l'adage scolastique, hein, des gustibus, etc., etc., est quelque chose de capital. En tout état de cause, je ne crois pas qu'on puisse parler vite de... d'éloge ou d'apologie de la d'autorisation à la subjectivité de l'interprète, à la subjectivisation. Le sentimento est un mot qui a une histoire complexe, qui le rattache à quelque chose qui procède du même étymon, c'est-à-dire sententia, hein, en latin. Et dans sentiment, il n'y a évidemment pas, c'est un anachronisme, ce que nous entendons aujourd'hui par sentiment. J'abrège, mais je donne toute une série d'exemples qui reconduisent le sentiment à ce qu'est l'intention de l'auteur, mais l'intention de l'auteur sur le plan de la pensée, pas sur le plan des affects, c'est-à-dire l'opinion, hein, qu'on peut se faire, hein, sur tel ou tel sujet, l'intenzione dell'autore. Est évidemment un syntagme qui arrive sous la plume de Velutello. Hein, en conclusion de cela, c'est-à-dire déterminer ce que sont les sentiments de Dante, c'est respecter son intention. Donc vous voyez bien qu'on est dans des sphères, hein, qui, pour notre psychologie courante d'aujourd'hui, ne sont pas les mêmes. Hein, si on interprétait sentiment de cette façon-là. J'ai signalé, pour commencer, les problèmes que soulève une opération éditoriale comme celle-ci, hein, qui nous fait perdre, il nous fait perdre la chose. Je signale aussi, j'étais très surpris parce que je voyais que les gens comptaient 87 illustrations et moi je n'en comptais que 86. Eh bien oui, il y en a une qui a sauté. Et il y a toute une série d'images qui prennent la place. Donc on a un chant 33 du purgatoire totalement incomplet. On n'a que les 30 derniers vers ou quelque chose comme ça.
Mais ça, c'est important. Parce que...
on a donc... J'ai noté ça, donc je pourrais passer. Hein, pour qu'on rectifie l'objet, parce qu'il n'est pas utilisable comme tel.
Hein.
Il n'est pas utilisable comme tel. La fameuse ligne en marge aussi, je ne sais pas si tu te rappelles. Parce que... La grande chose, celle sur laquelle on insiste toujours et sur laquelle je n'ai pas voulu revenir, c'est il cite la forme et la misura de l'inferno, où il développe une théorie particulière en disant j'explique Dante par Dante, pas de l'occupation au-delà de cela. Eh bien, donc les illustrations, la fameuse abstraction géométrique sur lesquelles vous avez écrit de belles choses, est au service de l'intelligibilité du texte, et vous avez y compris en marge, pour des questions d'angle ou la mesure du braccio, vous avez ça saute, ça n'apparaît pas à la photographie. Donc l'invitation, mais ça, c'est une remarque tout à fait naïve de non spécialiste, mais l'invitation évidemment pour ce type d'opération, faire en sorte qu'elle soit rigoureusement contrôlée par des spécialistes de la question derrière. C'est un objet qui est peut-être en ligne, ou qui va peut-être circuler, il n'est pas encore en ligne, mais avant d'être mis en ligne, qui évidemment a besoin d'être patiemment revérifié, image par image, s'assurer qu'il ne manque rien. J'ai terminé, je vous remercie de votre patience, je vous avais promis quelques notes, de lecture. J'ai essayé de cerner un petit peu les enjeux. Je n'ai pas suffisamment insisté évidemment sur le fait que du commentaire font partie ces illustrations. Mais il y a déjà matière à bien avancer sur cette question, sans que, non spécialiste, j'ai eu besoin d'y revenir. Alors en creusant, évidemment, on peut toujours avoir quelques petites idées nouvelles, mais peut-être pour la publication. Voilà. Ouais. Je vous remercie.
Alors...